Enfin, Dieu va faire comme ça. Il va reprendre, en quelque sorte, une humanité purifiée. Qu'est-ce qui va purifier l'humanité? Que le pardon de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ben, il va faire le contraire de l'homme. L'homme se tue, et Dieu va prendre son arc. L'arc, c'est le moyen de tuer l'autre par une flèche. Il va prendre son arc, Dieu, parce qu'il pouvait être violent aussi, quand il se repent, et il va le suspendre dans la nuée, entre ciel et terre, l'arc en ciel. C'est signe de paix. Il n'y aura plus jamais de déluge. On découvre Dieu comme celui qui pardonne. Et même qui avait l'idée de création, puis de décréation, puis de recréation dans le déluge. Le déluge, ça vient de tous ces pays de la Mésopotamie qui sont inondés une fois par an, hein, au moins une fois par an. Ils sont inondés pendant un temps, sinon il n'y a pas de végétation, tout est sec. Et c'est une image que vous retrouvez déjà aussi hein, dans l'Inumaïdish et puis le mythe d'Atrahasis, un vieux mythe aussi mésopotamien. Mais ici, de nouveau, il est épuré. Donc nous retrouvons des éléments mythologiques, mais qui sont vraiment retravaillés. Et si on pouvait suivre le texte pas à pas, on verrait comment tous ces détails s'accumulent pour nous donner vraiment une idée de Dieu qui est contre la violence humaine. La violence naît de l'homme. Et la violence naît de l'homme parce que l'homme est conscient de sa limite. Et il pense qu'en jalousant, c'est-à-dire en voulant l'autre, tout ce que l'autre a, tout ce que l'autre est, il va devenir plus grand. Et c'est le contraire qui se passe. Pour que l'homme ne contemple pas son frère, sa sœur, son père, son fils, tant qu'il en veut à l'autre, tant qu'il veut le prendre pour lui, il s'enferme. Il est dans la mort. Et alors, il faut bien raconter cette histoire de la mort quelque part. Hein? Ah bon? Hé! Alors, on remonte de nouveau. Le serpent, chapitre 3, était le plus nu de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait. Nous traduisons rusé. Et de fait, rusé et nu, c'est la même chose en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire, la nudité? La nudité, c'est la conscience de la faiblesse, l'impuissance. Et quand je reconnais animalement, c'est un serpent, c'est pas pour rien, animalement, dans mon animalité, disons autrement, quand, dans mon animalité, je reconnais ma limite, j'attrape peur et je veux me protéger contre la limite, sans recevoir ma limite comme un cadeau. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, c'est-à-dire au chef-d'œuvre de Dieu, hein, puisqu'elle est venue en ce moment, elle fait le brouillon de l'homme, il dit à la femme. Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu n'a pas dit ça. Le serpent, c'est le menteur. C'est le menteur, c'est-à-dire le mensonge que nous faisons pour nous protéger. Que nous faisons pour nous protéger. Le serpent, il est en nous, bien entendu. Hein. Le serpent, c'est un animal duel. C'est à la fois, il donne à la fois la mort, par son venin, et à partir de son venin, on peut faire guérir. Le principe du vaccin, quoi. Le vacciner. Et on ment. On se ment à soi-même. On tient. Si ce n'était pas un cadeau, en fait. Ou si ce cadeau était empoisonné. mangez pas le feu d'âme, Jean-Marc, ça me répondit au serpent.
Ah, nous pouvons manger
des fruits, des arbres du jardin. Mais les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y touchez pas, sous peine de mort. Pas du tout, vous ne mourrez pas, dit le serpent. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal, le bonheur et le malheur. Voilà. Tu veux te faire centre du monde. Tu veux tout juger par toi-même. Tu ne peux pas recevoir ta vie comme un cadeau. Tu fais comme si tu n'avais pas d'antécédents. Et on raconte cela pour dire le projet de Dieu, c'est vraiment que l'homme soit homme, connaissant la présence de Dieu et le recevant comme un don à travers tout ce qu'il a fait, mais ne se situant pas à partir du soi-même, de la nefesh de soi-même. Alors, ils mangent du fruit, ils mangent de leur propre fruit, en quelque sorte, de leur propre envie, comme nous dirions aujourd'hui. Alors, leurs yeux s'ouvrent. Ils découvrent qu'ils sont nus, effectivement. Et ça devient une honte. Ils découvrent qu'ils ne sont pas seulement vulnérables, mais qu'ils sont blessés. Et alors, ben, ils se protègent, hein, ils se font des pagnes. Et puis Dieu va leur donner quelque chose d'un peu plus solide. Il va leur donner de la peau à la place de pagnes, de la peau. Et ils entendirent le pas dans le jardin, à la brise du jour, le pas de Dieu qui se promenait. Et l'homme et la femme se cachaient. On ne sait plus parler à Dieu comme ça. Hein. Il faut des intermédiaires. Alors, qui t'a appris que je suis nu? Voilà. Qui t'a appris que tu étais nu, pardon? Ah ben, la femme. Ah, c'est le serpent. Parce que tu as fait cela, attention, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tiens, voilà une malédiction. C'est-à-dire, tu as un principe de mort. L'animalité devient pour l'homme un principe de mort. Si je deviens vraiment animal, si je laisse en moi les pulsions se déployer, ben je mets la mort. Mais c'est ce qui va se passer avec Cain, précisément. Il y a sa jalousie qui est comme une bête tapie à sa porte. Il devient bestial. Et tout ceci, c'est un problème de violence, non-violence. L'homme pourrait contrôler sa violence. Et il ne peut contrôler sa violence que s'il a un rapport avec Dieu. Que s'il a un rapport à Dieu. Maudit soit, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Et tu seras ce que tu es. Tu seras animal, animal terrestre, le nez sur la terre. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. C'est-à-dire que la femme va être principe de la transmission de la vie. Une inimitié. Elle sera en quelque sorte comme le principe divin, enfin de la vie divine, à travers le monde. Et effectivement, le début de la généalogie de saint Matthieu nous le rappelle, chaque fois que l'homme est déficient, il ne transmet pas la vie comme il faut, il y a une femme qui se trouve là présente pour faire le génome manquant. À la femme, il dit, je multiplierai les peines de ta grossesse dans la peine que tu enfanteras des filles. Nous prenons ça généralement comme des châtiments. Ce ne sont pas des châtiments, ce sont des réalités, simplement. Mais ces réalités nous marquent que nous sommes limités et que nous avons à porter cette limite, non pas comme un fardeau, comme une peine, mais comme une grâce. Ah non, mais il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger. Maudit soit le sol à cause de toi. Pas maudit ça tout soit quoi? L'homme n'est pas maudit. Maudit soit le sol. Ça ne va pas aller tout seul. Autrement dit, c'est toute la situation de l'homme et de la femme telle que nous sommes. Vous êtes limité dans ce qui fait votre grandeur. Donc faites attention à votre grandeur. Le don, le portement, je dirais, de la vie et le don du travail. Le travail, c'est la création. Oui, avec toute cette perspective qui est présente, j'ai essayé de vous la décrire un peu de façon vivante, mais toute cette perspective qui est présente dans le monde. Donc qu'est-ce que l'homme va faire quand il va commencer à reconnaître que Dieu est au principe de sa vie et qu'il ne peut pas vivre sans Dieu. Il est unique comme Dieu est unique. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce sont les chapitres 12 à 50 qui vont le dire. Et on va reprendre, c'est voici les générations, 5 fois de nouveau, 5 fois de 1 à 11, et puis 5 fois de 11 à 50. On va reprendre, voici les générations. Dans la continuité de l'existence d'Israël, qu'est-ce que Dieu fait quand l'homme lui permet de travailler avec lui? Que deviennent l'homme et la femme? Que deviennent les frères? Que deviennent les générations? Que deviennent les peuples? Et donc c'est cette histoire-là qui va être transmise à travers Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu fait avec ce que l'homme lui donne? Et nous verrons ça la fois prochaine. À expliciter la lecture, l'interprétation du livre de la Genèse. Nous avons vu la fois passée que le livre de la Genèse commençait par un tableau nous donnant l'histoire, c'est-à-dire les engendrements de l'homme et de sa descendance. Et vous pouvez reprendre à la page 12, dans les chapitres 1 à 11 de la Genèse, vous avez d'une part la création, c'est-à-dire l'engendrement du ciel et de la terre, et puis au chapitre 2, on vous parle de la terre et du ciel. Et donc d'abord, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu met en branle la vie humaine, mais pour mettre en branle la vie humaine, il met d'abord en branle une terre, c'est-à-dire un milieu, un environnement, comme nous disons d'autres. Et puis à partir de là, nous voyons au chapitre 5 qu'on nous parle des engendrements d'Adam. Et cet engendrement d'Adam nous donne l'histoire de Caïn et Abel. Donc l'engendrement d'Adam, c'est Caïn et Abel. C'est-à-dire le couple humain, puis les frères, homme-femme, et puis la relation fraternelle. Après cela, nous avons les toldot, toujours les engendrements de Noé. Noé et ses fils, c'est-à-dire, c'est toujours la réalité de la vie qui continue, mais cette réalité de la vie se continue à travers des générations, grand-père, père, fils, etc. Et ça, c'est le début de Noé, mais en même temps, on voit la prolification du mal, de la réalité mauvaise, des forces du mal, dans le monde. D'où la réalité du déluge qui prend la forme dans la Bible de il y avait une création,
Il y a une sorte de décréation par l'eau, le déluge, et puis une recréation. Il n'y aura plus jamais de déluge. C'est-à-dire, c'est la découverte que la relation à Dieu fait en sorte que la mort totale n'existe pas. On aurait cru qu'elle pourrait exister, on croyait que tout était perdu. Eh bien, ce n'est pas vrai. Dieu se soucie toujours de la réalité humaine. Mais en même temps, ce qui est vu ici, ce sont les générations. Alors, nous avons les fils de Noé, et là, vous voyez aussi, hein, chapitre 10 et 11, c'est tout bref, il n'y a pas grand-chose, mais on parle des fils de Noé pour montrer justement que, à travers la réalité du mal, la vie progresse toujours, elle continue toujours. Et finalement, vous avez les Toldot, le Sem, et avec les fils de Sem, nous avons l'histoire de la tour de Babel. C'est-à-dire Dieu qui donne la grâce de la dispersion. On se disperse, on parle des langues différentes, pour découvrir comment, à travers les langues différentes, à travers la différence, on peut s'unir, vivre quelque chose, et que Dieu donne en le recevant de Dieu. Et nous voyons bien que ce qu'on appelle généralement des châtiments, des punitions, c'est la réalité que l'homme vit, la réalité de l'homme devant les difficultés de sa vie concrète. L'homme ne sait pas vivre homme-femme sans se bagarrer. Il ne sait pas vivre la réalité fraternelle sans l'incompréhension et même sans se tuer. On ne parvient pas à vivre les générations au milieu des autres générations, sans incompréhension plus ou moins totale. Et on fait le mal et on ne sait pas vivre étant différent. Ou bien on veut l'uniformité dans un totalitarisme échevelé, ou bien on s'enferme en soi-même. Donc l'homme a vraiment du mal de recevoir le don, la confusion, de recevoir le don, d'être entièrement donné à lui-même tel qu'il est. Et l'enfermement, c'est-à-dire la découverte de ses limites, qui est évidemment une bonne chose, puisque si je suis limité, l'autre commence après moi. Donc il m'est donné aussi, comme un compagnon, comme un père, une mère. L'autre est destiné à me combler. Donc je n'ai pas à vouloir ce que l'autre a. Et donc on voit que la jalousie s'immisce, parce que l'homme s'approvisionne la plupart du temps à son propre arbre, c'est-à-dire sa liberté. Il pense que sa liberté est une liberté absolue. Tout de suite, tout le temps. Hein. Ça, c'est la grande tentation. Et maintenant, on va voir dans la suite des chapitres, c'est-à-dire dans les chapitres 12 à 50, la suite du livre. Qu'est-ce que Dieu fait avec la réalité que l'homme lui donne? Comment Dieu travaille-t-il? Nous avons vu qu'il y avait trois domaines qui étaient constamment présents. Le domaine de la descendance, le domaine de la terre, on vit dans une réalité, descendance, le Toledot, la terre et la relation Dieu-homme. Donc voilà les grands éléments, les grandes catégories que nous avons sans cesse. Et la descendance est toujours liée à la bénédiction, puisque c'est une grâce reçue de Dieu que la vie puisse se propager. Hein, chaque arbre selon son espèce, avec sa semence importée dans le fruit. Et nous avons la terre, alors, qui est la descendance c'est le rapport de l'homme au temps, le travail à travers le temps, et le rapport de l'homme à l'espace, c'est la Terre. Donc, Dieu, l'espace et le temps. Voilà les grandes catégories avec lesquelles on travaille donc, d'une manière absolument générale, avec les clés pour la lecture totale du livre de la Genèse. Si vous prenez maintenant la page 14 que je viens de vous donner, nous avons une reprise du même schéma, puisque nous avons à partir du chapitre 11, pour retourner un tout petit peu avant 12, à partir du chapitre 11, verset 27, et en allant jusque au chapitre 25, verset 11, on parle alors de la génération de Terah, qui est père d'Abraham. Et donc il y a une migration d'un clan. Et puis au chapitre 25, verset 12, et alors, pendant tout ce temps-là, on nous raconte l'histoire d'Abraham. Mais c'est à partir du père que l'on travaille. Puis vous avez, deuxièmement, à partir du chapitre 25, verset 12, jusqu'au chapitre, il n'y a que quelques versets, mais c'est très bref, nous avons le premier fils d'Abraham, Ismaël, fils d'Agar. Abraham, Sarah, Ismaël, Agar. Mais c'est très vrai. Nous voyons que c'est un interstice et en même temps un chaînon. Tandis que la première partie est très abondamment développée. Vous avez ensuite, à partir de 25-19 jusqu'à 35-29, et on voit bien que ce passage est central par rapport à tout ce qui va être développé. Nous avons là ce qu'on appelle dans les Toledot Isaac. Seulement Isaac n'apparaît presque pas, c'est aussi tout très vrai, mais c'est surtout l'histoire de Jacob qui est importante. Jacob, avec les femmes, Léa, les Rachel, et les mères porteuses, Zilpa et Zilpa. Donc, qui reprennent l'histoire de Sarah Agar. Donc une longue histoire, cette histoire de Jacob, qui est en quelque sorte le centre de l'histoire maintenant. Là, c'était la programmatique, la réalité de la création, et maintenant cette création est mise en route. Nous allons voir tout de suite comment. Puis nous avons encore un petit intermède, 36.1 à 37.1, et là, telles sont les toldot d'Ésaü. On parle de Jacob, on parle bien sûr d'Ésaü, mais on montre que Ésaü a aussi une histoire, et que cette histoire appartient aussi à la bénédiction de Dieu. C'est une histoire dans la vie. Nous allons voir tout de suite l'importance que Ésaü va avoir par rapport à Jacob, mais c'est déjà présent, évidemment, dans les Toledot d'Isaac. Et puis maintenant, nous avons de 37.2 à 57.6 là, de nouveau, hein, l'histoire est beaucoup plus ample, on raconte beaucoup plus de choses, c'est pour ça que j'ai privilégié 1, 3 et 5. Nous avons les Toledot de Jacob, c'est-à-dire les engendrements de Jacob, mais il s'agit
surtout, des 12 fils, et notamment Joseph. On voit bien que l'histoire, telle qu'elle est mise en œuvre ici, montre un parallélisme avec la première partie qui était programmatique. Et maintenant, on va raconter une histoire dont il faut se demander si c'est une histoire réelle ou bien si c'est une histoire de petites histoires mises ensemble. Mais mises ensemble à côté de trois personnages archétypes, pourrait-on dire, trois modèles, trois ancêtres, trois patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et puis les fils de Jacob, histoire centrée autour de Joseph. C'est énorme de voir tout cela en une heure, bien sûr. C'est un peu fou. Mais c'est pour montrer quand même quelles sont les grandes avenues de cette histoire. Nous n'avons pas à faire tout le détail, mais à parcourir ces textes en prenant les grandes avenues, c'est-à-dire les thèmes principaux et souvent sous-jacents, qui reprennent évidemment les trois éléments que j'ai mis là. Toujours une implication de l'homme dans le temps et dans l'espace, donc une descendance et une terre, et puis une relation avec Dieu. À travers tout cela, Dieu a quelque chose à voir. L'histoire se déroule sous le regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait avec l'homme? Donc voilà d'abord la structure, nous venons de la voir brièvement. Et alors, à travers tout cela, bénédiction qui est liée à la descendance, que la bénédiction est don de vie, et promesse qui est liée à la terre. Dieu promet. Et je vous ai dit la fois passée que la promesse, c'est la réalité du désir dans l'homme. C'est la présence de Dieu qui demande à s'épanouir, à s'expliciter dans la réalité humaine. Dieu fait vraiment corps avec l'homme. Et donc, comment Dieu est-il promesse? Ce thème de la promesse, évidemment, c'est un thème tout à fait ultérieur. De même que le début a été composé tel quel, bon, disons à l'époque de l'exil, à l'époque de la sagesse en tout cas, eh bien, l'amalgame de ces récits, ou plutôt la structure de ces récits, a été mise également en musique, en tableau, comme en structure telle qu'elle est ici, elle a été mise vraiment aussi après l'exil. C'est une réflexion. La vie, et la vie qui m'est donnée, est ouverture. Elle est ouverture au-delà de moi-même, dans le temps. Et j'ai besoin, pour qu'elle s'explicite, et pour que les enfants de mes enfants puissent trouver un espace, j'ai besoin d'une terre ou de terre. Et voilà, à partir d'Abraham, qu'est-ce que nous voyons? Des voyages. On commence avec des voyages, on se promène. On n'est plus seulement autour d'un jardin ou à un endroit bien déterminé qui semble tout à fait clos. Mais on part. Ça commence par là. Et on nous raconte l'histoire d'Abraham de deux manières différentes. En effet, en 11:27, voici la descendance de Terah. Terah engendra Abraham, Nahor, et Aram engendra Lot. Aram mourut en présence de son père Terah, dans son pays natal, Ur des Chaldéens. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? La migration d'Abraham. Ben, ces migrations, elles étaient évidemment nécessaires, parce qu'il fallait trouver des packages pour les troupeaux. Et on remonte l'Euphrate. Mais
c'est le chemin de la civilisation, ça. L'histoire commence à Sumer, c'est-à-dire dans le Golfe. Le Golfe Persique, comme nous l'appelons maintenant. Et l'histoire est née véritablement là-bas. Comment commence l'histoire? L'histoire commence au moment où on commence à raconter les choses pour les descendants. Et comme il faut transmettre à des gens qui ne sont pas encore là, on invente l'écriture. L'écriture est un phénomène de civilisation étonnant. C'est le passage d'une vie enfermée à une vie ouverte, ouverte dans le temps et donc aussi dans l'espace. On trouve un moyen de communiquer avec ceux qui ne sont pas encore là, et qui viendront. Et qu'est-ce qu'on communique? Bien, on communique sa mémoire, sa propre histoire. Et donc, avec l'histoire commence l'écriture. Et si l'histoire d'Abraham nous est racontée comme cela, avec cette migration depuis Ur HaKadé jusqu'aux sources de l'Euphrate, et puis une redescente de l'Euphrate dans le territoire qui sera celui d'Israël plus tard, eh bien, on veut nous dire que l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire qui est présente dans notre civilisation. Et c'est écrit. C'est écrit parce que l'écriture dit l'histoire. Mais dit l'histoire, non pas telle que nous la voyons aujourd'hui, nous, c'est de la chronologie, hein, ce sont des événements situés dans le temps et dans l'espace. Eux, c'est situé en gros dans le temps et dans l'espace. Mais la véritable histoire, et c'est pour ça qu'il y a un chemin, ce n'est pas un itinéraire extérieur, la véritable histoire, c'est un itinéraire spirituel, un itinéraire intérieur. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais c'est lié au temps et lié à l'espace. Donc c'est une notion d'histoire très différente de la nôtre. Pour nous, il y a des données fixes, qui sont la chronologie et la topographie. Pour eux, la véritable histoire, c'est l'histoire intérieure. Et pour raconter cette histoire intérieure, on peut faire appel à toutes sortes de choses qui ne se sont pas passées telles que nous imaginerions qu'elles se seraient passées quand nous, aujourd'hui, 2000 ans après, lisons les textes. Eh bien, on nous raconte d'abord la migration. Terre a pris son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et Sabru, Sarai, femme d'Abraham. C'est un petit problème, hein. On parle d'Abraham et de Sarai. Bon. Il les fit sortir d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan, voilà. Il y a une nécessité, une transhumance. La durée de la vie de Terah, ça, c'est un élément rédactionnel, plus de 205 ans, puis il mourut à Haran. Maintenant, on va vous raconter l'histoire à partir du chapitre 12, en vous disant bien que c'est une réalité intérieure. Il nous le dit, texte. Le Seigneur dit à Abraham. Quand on déménage, le Seigneur parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a une sorte de changement dans la vie de l'homme, le Seigneur est présent. Il est toujours présent, hein. Mais on s'en rend davantage compte parce que quand on arrive dans une nouvelle maison, hein, il faut tout réinstaller. Donc, il faut retrouver ses repères. Mais le repère des repères, c'est bien Dieu. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Commence par laisser ton passé tomber. Il s'agit d'inventer du neuf. Quand tu restes accroché à ton passé, tu ne fais pas du neuf. Ah. Quitte ton pays, mais quitte en hébreu, ça se dit lach lecha, va vers toi-même. Tu découvriras qui tu es quand tu seras tout à fait désorienté. Quand tu n'es pas désorienté, tu t'appuies encore sur une quantité de choses, tu as des assurances. Or justement, la vie, c'est la non-assurance dans la réalité terrestre pour pouvoir être assuré en Dieu. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, donc dire tout ce qui t'a constitué, pour le pays que je t'indiquerai. but n'est pas déterminé d'avance. Ah, je ferai, et voilà la promesse, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, qui servira de bénédiction. Un nom qui sera une bénédiction. Ta présence, ta personne, est une bénédiction, c'est-à-dire c'est une vie en marche. Je bénirai ceux qui te béniront, ceux qui reconnaîtront la vie qui vient de Dieu à travers toi. Je réprouverai ceux qui te maudiront, une manière de dire que... Il n'y a pas d'autre manière, c'est... Je bénirai. Entre dans la bénédiction, autrement dit. Par toi se béniront toutes les nations de la terre. Ça, c'est la vocation première de tout homme. Tout homme est fait pour être un être universel, toutes les nations de la terre, pour nouer des relations avec tout un chacun. Puisque c'est le rapport à la civilisation qui s'exprime ici. Abraham partit, comme lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Et à partir de ses 75 ans jusqu'à 175, quand il mourut, il marche, voyage. Abraham avait 75 ans, Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'il avait amassé, le personnel qu'ils avaient acquis à Haran, ils se mirent en route pour le pays de Canaan. Et ils y arrivaient. Maintenant, cette histoire d'Abraham est constituée de toutes sortes de mémoires de différentes tribus. Il y a des tribus qui se rattachaient à un lointain ancêtre Abraham, il y a des tribus qui se rattachaient à un lointain ancêtre Jacob, quelques tribus aussi qui se rattachaient à un lointain ancêtre Isaac. Était-il parent ou non, on n'en sait rien du tout. Mais la Bible nous le raconte comme une parenté. C'est ça qui est intéressant. Au départ, ce sont simplement des noms plus ou moins fictifs. Abraham, c'est le grand cheikh. Abraham, c'est le père. Ram, énorme, grand. Donc c'est le cheikh le grand. Abraham. Et sa femme s'appelle Sarai, c'est-à-dire ma princesse. Ma princesse d'Abraham. Et voilà que Dieu va distribuer les noms autrement à un certain moment. Il va changer de nom. Mais il ne change pas la valeur des noms. Il va reprendre le I de Sarai, Aleph, Ben, Gimel, Daleth, Eza, Zaim, Ketet, Yot. Le Yot signifie un A, à une valeur, 10. Il va mettre à la place un He, qui a comme valeur 5. Ça devient Sarah. Abraham, eh bien, il va lui donner un A aussi. Il va ajouter un petit A. Abraham, la Raham, c'est la multitude, c'est une grandeur, un collectif. Alors, tout ce qui était encore enfermé, le grand cheikh, de son clan, et Sarah qui était là, ma princesse d'Abraham, devient la princesse pour le monde, et Abraham, le père d'une multitude. C'est dit comme ça, tout simplement. Mais c'est important. Dieu ne change pas la personnalité d'Abraham et de Sarah. Mais d'un yod, il fait deux et de l'âge. Ce sont des manières un peu cryptiques, mais à l'époque, après l'exil, c'est ce jeu de mots, ces jeux de mots, parce qu'il y en a plusieurs, sont extrêmement importants. Migration de Terah, parole de Dieu,
vis-à-vis d'une terre, puis ouverture vers les nations, vocation universelle d'Abraham. Nous avons un peu la descendance, parce qu'on vous dit que Sarai, la femme de Nahor, s'appelait Milka, qui était le père de Milka et Iska. Or, Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Gros problème. Un immigré désire deux choses. Avoir des enfants et avoir un chez-soi, un appartement, une maison. Deux grands désirs de l'homme, de se prolonger dans le temps et dans l'espace. Il y a des obstacles. Il y a toujours des obstacles. Parce que l'homme est limité et donc il est obstacle. On fait toujours obstacle à soi-même et aux autres. Rien à faire. C'est normal. Mais l'obstacle est fait pour être dépassé. Et donc, il y a ici. Elle est stérile, mais on suppose bien que le Lot, hein, Lot, qui est le neveu, c'est l'héritier présomptif, hein. Donc, il faudra voir comment ça va marcher. Et alors, il y a des choses bizarres qui arrivent à ce moment-là. Un premier épisode que nous voyons par trois fois dans le livre, c'est que Abraham qui s'en va en Égypte, tiens, en Égypte. Il vient de la région du Golfe et puis de Mésopotamie. Elle voit qu'il vient en Égypte. Vous voyez que déjà les deux antagonistes, pourrions-nous dire, de Babylone, hein, Mésopotamie et de l'Égypte sont déjà présents. Et c'est à travers ce chemin entre Babylone et l'Égypte que va se situer l'histoire d'Israël. Donc tout ça est évidemment programmatique. Et il faut voir quelle est l'intrigue qui va mettre tous ces événements ensemble. Ici, on dirait que tout va capoter déjà. Abraham met déjà un obstacle à sa vie. Il passe en Égypte, le pharaon trouve que Sarah est magnifique, elle est belle, et il veut la voir parce que Abraham l'a présenté comme sa sœur. Il ne voulait pas avoir des affaires, il ne voulait pas qu'on le tue à cause de sa belle femme. Et alors il dit, c'est ma sœur. Et le pharaon s'éprend de cette femme et veut la prendre pour lui. Mais Dieu intervient, il dit, non, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Donc vis un peu ta réalité. Elle n'est peut-être pas facile, mais vis-la. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une séparation d'Abraham et de Lot, c'est important, parce que Lot choisit un pays, et Lot remonta, Abraham avec sa femme, d'Égypte, Abraham avec sa femme et tout ce qu'il possédait, et Lot avec lui remonta au Néguev. Et Lot choisit le pays qui n'est pas Canaan, et donc Abraham, c'est pas lui qui choisit le premier, Abraham prend ce qui reste, c'est-à-dire le pays de Canaan. Et tout ça, c'est important, parce que c'est déjà la terre. Qu'est-ce que c'est qu'une terre promise, hein? On se rend compte qu'elle est promise quand on l'a. Hein? On s'est rendu compte de la terre promise quand on l'avait, quand on y avait déjà vécu longtemps, tout le temps de la royauté, et qu'on l'avait perdu. On l'avait perdu, on était en exil. C'est à ce moment-là qu'on découvre, tiens, c'était un cadeau de Dieu. Si Dieu nous donne, il peut nous reprendre, puisque c'est un cadeau. Bon. Et alors, il y a un petit épisode sur la campagne des rois, sur l'histoire de Melchisédek qui vient offrir le pain du vin pour la victoire. Mine de rien, t'as bien, hein. Et puis alors, nous avons au chapitre 15 et au chapitre 17, deux fois, la relation Dieu-homme qui est mise en évidence. L'homme ne peut subsister qu'avec la présence de Dieu. Et cette promesse, c'est d'abord et avant tout une promesse d'accompagnement. Bon, après, on parlera de alliance. Le rapport entre Dieu et l'homme, hein, ça va se solder par une alliance. On avait déjà découvert cela après le déluge, avec Noé, et d'une promesse que Dieu avait dit, il n'y aura plus jamais de déluge. Alors, femme stérile, pas d'enfant, que faire? Mais il y a l'héritier présomptif, mais un héritier présomptif, hein, le gendre, le neveu ici, hein, c'est pas véritablement le bon chemin. Alors, on va trouver un autre chemin. Il y a... Ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier, dit Dieu. Hein, c'est bien un bouclier, c'est vrai. Enfin, c'est pas un enfant. Hein. Mon Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, Abraham dit. Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Son serviteur Eliezer. Voilà un autre héritier présomptif. Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée, celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Ah, issu de ton sang. Bon, on va trouver un moyen. Et Sarah donne à Abraham sa servante, Agar, qui devient mère porteuse. Oui, mais quand l'enfant est né, Agar ne donne pas son enfant à Sarah, évidemment. Et la jalousie commence. Cette jalousie qui était déjà présente avec Cain et Abel, elle continue. Elle se pousse. On veut avoir ce...